ensemble puisque nous envisageons l'expertise en pratique avec 4 exemples de spécialités et des sortes de mini tables rondes dont la première concerne l'expertise en bâtiment et nous avons la chance d'accueillir Monsieur Pinchon et Maître Stevenson à qui je donne tout de suite la parole. Merci beaucoup.
Madame la Présidente, je vous remercie. Puisqu'on avait la chance d'avoir un de nos meilleurs juristes, solliciteurs britanniques, il dit pas anglais, il dit britannique, Robert Stevenson, que j'ai connu il y a longtemps, puisque c'est avec lui que j'ai fait le premier livre sur les différentes méthodes expertales dans l'Union européenne en 1999. À l'époque, il n'y avait que 15 pays, donc on était allé dans tous ces pays-là. Et donc, j'avais rencontré Robert. J'avais dit, ce type-là, il est extraordinaire, il faut le garder. Donc, on l'a gardé. Il a une particularité, c'est qu'il parle parfaitement le français, peut-être même mieux que moi. Et donc, comme je fais assez souvent, je pense que c'est plus interactif de faire un échange entre comment ça se passe dans un pays ou dans un autre. J'ai fait ça avec les Espagnols et dans d'autres pays aussi. Donc, on s'est mis un petit pense-bête avec 33 questions. On n'ira peut-être pas jusqu'au bout si on a des développements trop longs pour savoir comment ça se passe en France et en Angleterre. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la common law, mais qui peut mieux parler de la common law que quelqu'un qui la vit tous les jours? Et donc, Robert Stevenson, merci d'être venu. Je te passe la parole pour que tu dises deux mots quand même sur toi, parce que malgré tout, on ne te connaît pas encore tous.
Merci, monsieur le président. président d'honneur. Mesdames, messieurs et quelques chers confrères, je suis très content de venir encore. Vous entendez rien? C'est mieux? Plus fort? D'accord. Je suis très content de venir à Reims à ce colloque à l'invitation de Madame la Présidente et François Pinchon. Bon, je ne veux pas parler trop longtemps. Je suis simple avocat. J'exerce dans le domaine de la construction, mais malgré ça, je connais un petit peu sur les questions de l'expertise dans d'autres domaines juridiques. Le pénal, par exemple. Donc, j'espère de éclairer un petit peu là-dessus aussi. Je passe la parole.
Bien. Alors, Robert, la première des questions que l'on avait mis en place pour commencer la discussion était « Existe-t-il des listes d'experts définies par les tribunaux ?» Alors, je vais donc continuer. En France, comme vous le savez, mes chers confrères, il y a un certain nombre de listes. Il y a une liste par cour d'appel qui est déterminée par les magistrats. Et puis, donc, il y a 35 cours d'appel. Il y a donc 35 définitions de désignations d'experts. Et je crois qu'il y en a à peu près 17 000 au total. Enfin, j'ai jamais vraiment su le nombre exact, mais enfin, voilà. Mais après, autour de cela, vous avez aussi une compagnie d'experts agréés par la Cour de cassation qui regroupe un certain nombre de ces experts cours d'appel qui ont été sélectionnés par les magistrats de la Cour de cassation pour avoir une possibilité d'intervention sur tous les ressorts français et non pas sur la cour d'appel dont ils dépendent. En vérité, ces experts, ils ne sont pas meilleurs ni moins mauvais que les autres. Ils ont une particularité, c'est qu'ils peuvent être facilement délocalisés, ce qui fait que dans un certain nombre de cas, et notamment dans les îles, en Corse, en Martinique, en Réunion, en Guadeloupe, c'est assez, et même dans certaines régions, il est quand même assez intéressant d'avoir un expert qui n'est pas dans le contexte local. Non pas que les experts qui soient dans le contexte local soient, j'allais dire, partiaux, mais il y a toujours cette fameuse théorie de l'apparence qui a été expliquée ce matin par M. de Fontbressin et par M. Maté, qui fait que si on a l'habitude d'aller faire un tennis avec quelqu'un, même si on est indépendant, bah, on dit voilà. Donc on sert un peu à ça, nous qui sommes délocalisables, j'allais dire facilement. Et ce principe des experts sur des listes, qui, j'espère, ne sera pas remis en cause avec l'arrêt du 17 mars de cette année, mais Dominique nous en dira peut-être plus tout à l'heure, est quelque chose qui est assez spécifique à notre juridiction, nos juridictions romano-germaniques. Il y a des listes en Angleterre, en Espagne c'est un peu différent, mais enfin on n'est pas là pour faire du comparé. En revanche, dans les pays de common law, c'est complètement considéré comme une déviation de l'intégrité judiciaire. Et je passe la parole à Robert pour qu'il me dise si c'est vraiment vrai tout le temps.
Bon, la question c'est que existe-t-il des listes d'experts définies par les tribunaux ? La réponse que j'ai mise est non. Parce que, pour la plupart du temps, les experts sont nommés par les parties au litige, même devant le tribunal pénal. Néanmoins, il existe des listes, mais ce sont des listes rédigées, par exemple, par le Law Society, qui est équivalent du barreau d'Angleterre et Pays de Galles, ou bien dans le domaine où j'exerce moi-même. Il y a des listes tenues par la compagnie des ingénieurs, la compagnie des géomètres et les compagnies des architectes, par exemple. Donc, chacun a une liste des architectes ou des ingénieurs qui sont prêts d'exercer le rôle d'un expert, soit dans un litige devant les tribunaux, soit dans un arbitrage. Soit en Angleterre ou peut-être soit ailleurs. Donc, je crois que ça, c'est la réponse bref et simple.
Bien. Alors, le point suivant, là, c'était un petit peu un échauffement. Le point suivant est quand même un point qui va beaucoup nous opposer avec Robert. C'est finalement le problème du contradictoire, c'est-à-dire l'expert judiciaire peut-il faire ses opérations d'expertise sans convoquer les parties au procès? Et voilà un point qui va nous opposer fortement dans le principe, tout au moins, parce que pour nous, l'expertise judiciaire, sans vouloir faire de cours à vous, mes chers confrères, qui en savez autant que moi, et parfois plus, l'expertise judiciaire, elle tient chez nous en trois triptyques, c'est-à-dire l'équilibre isostatique pour les ingénieurs. C'est-à-dire que il y a trois points, il n'y en a pas quatre, c'est simple. Le premier des points, c'est la règle du contradictoire. Le deuxième point, c'est la matérialité des faits. Et le troisième point, c'est le lien de causalité entre la matérialité des faits et les conséquences dommageables. Quand on a dit ça, c'est ça l'expertise en France. C'est ni plus ni moins. Donc, pour nous, le respect du contradictoire est quelque chose d'essentiel et on ne comprendrait pas dans notre système, que l'on puisse faire des réunions d'expertise sans que toutes les parties soient présentes, c'est-à-dire que le contradictoire soit respecté formellement. Alors, vous me direz, il y a des exceptions, on n'est pas là pour en parler, on peut les citer, mais si on veut. Il y a des problèmes de secret industriel, de secret professionnel, il y a les problèmes de l'acoustique. L'acoustique est un peu particulier, puisqu'on ne peut pas prévenir les gens, sinon, à ce moment-là, ils ne font plus de bruit. Enfin, il y a des tas. Mais ça, ce sont des éléments qui ne sont pas généraux dans nos systèmes. Nous, c'est le principe du contradictoire, et quelqu'un qui viendrait faire une expertise en Angleterre, puisque ça peut arriver, même que dans l'autre sens, serait complètement déstabilisé quand on voit un expert qui intervient. Je crois que là, il faut, Robert, que tu nous expliques un petit peu comment toi tu considères que malgré tout, la justice peut être équitable en Angleterre sans ce système-là.
Bon, encore une fois, il y a deux parties à cette question. Le caractère contradictoire des réunions des expertises est-il facultatif ou civil ? Bon, j'ai répondu, les réunions d'expertise n'existent pas dans la procédure anglaise. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, un expert tient une réunion auquel il invite les deux parties. Comme vous avez sûrement expliqué ce matin, et comme je viens de dire, les deux parties, chacun nomme leurs experts. Néanmoins, il existe dans la procédure un moment où souvent le tribunal exige que ces deux experts dans tel ou tel domaine d'expertise se réunissent pour discuter entre eux, pour clarifier leurs points de accord et désaccord. Et alors, j'ai plutôt expliqué ça dans le texte que vous avez, que vous avez reçu, c'est page 23, si vous voulez le lire. Et bon, je fais d'autres points de ce texte, si je n'ai pas très bien expliqué. Pour les autres, les opérations d'expertise, j'imagine que, comme vient de dire François Pinchon, l'expert se rend sur le lieu pour écouter s'il y a un bruit ou non. Et à ce point-là, il va inviter une représentante des deux parties. Bon, ça peut arriver que vous avez deux experts qui se rendent sur le lieu pour écouter le bruit. Et ça aurait pourtant mieux s'ils font ça que s'ils vont chacun leur côté pour écouter, c'est un bon exemple, au moment différent. Et justement, ça c'est le type de question, le type de procédure qui doit être peut-être clarifié, soit pendant cette réunion des deux experts, soit par le juge qui a nommé ou qui a dit aux parties, vous pouvez nommer les experts chacun votre côté.
Je te fais une parenthèse, mais ils ne sont pas obligés, ce n'est pas une obligation qu'ils soient en même temps pour regarder les faits.
Non, ce n'est pas une obligation. Mais quand même, à mon sens, la qualité de la preuve serait mieux s'ils font cette écoute, cette examination, en même temps. Parce qu'on peut faire une comparaison directe, tandis que s'ils se rendaient au moment différent. Mais ils ne sont pas obligés d'inviter tout le monde. Il y a deux experts, ils se peuvent rendre sur le lieu sans avoir les avocats, par exemple. Ils se rendent sur le lieu. Et la plupart du temps, les réunions des deux experts sont faites sans avocat. Donc, il peut parler, il peut discuter franchement sous une couche de privilège. Mais à la fin, ils sont censés de rédiger, souvent par le juge, les points d'accord et les points de désaccord. Et, si vous voulez, les conclusions de cette réunion. Et c'est aussi répandu, surtout à ma connaissance, dans le domaine de la construction, dans l'arbitrage international. Souvent, un arbitre va dire... Bon, vous voulez nommer chacun votre expert, il y aura une réunion entre vous, et s'il y a un problème, peut-être, nous, le tribunal, va être là, va être présent pour vous diriger vos travaux.
Oui, mais alors là, bon, je change un peu dans les questions, mais parce qu'on arrive au cœur du sujet... On voit la quatrième question où on dit est-ce que les experts sont nommés personnellement ou est-ce qu'il peut y avoir des sociétés qui sont nommées? Alors ça, c'est un petit peu... Mais je vais changer la question. Alors oui, en France, les experts sont nommés personnellement, mais il peut y avoir des sociétés qui sont nommées, mais contrairement à ce qui se passe, par exemple, en Espagne, si c'est une société qui est nommée en France, il faut savoir qui est le représentant de cette société qui va faire l'expert. Autrement dit, c'est malgré tout un expert personnalisé, qui a une personne physique, même s'il représente une personne morale. Alors, en revanche, évidemment, chez vous, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, comme il n'y a pas de liste d'experts officiels, ce sont des experts qui vont être nommés, tu vas m'expliquer comment, mais ma véritable question, elle est la suivante. Nous, on considère en France que l'indépendance de l'expert est quelque chose d'essentiel et donc il faut qu'elle appartienne à aucune des deux parties. Alors que vous, vos experts, sont des experts de chacune des parties. Donc le risque que nous pouvons voir dans ce système-là, c'est que finalement, comme le juge n'est pas quelqu'un qui connaît la technique par principe, eh bien, il va être influencé par celui qui parle le mieux et qui a plus d'expérience. Ça se voit un peu dans les arbitrages, parfois internationaux. Donc, c'est un petit peu le reproche qu'on vous fait, mais vous allez nous en faire d'autres, certainement. Voilà, Robert, je te passe la parole.
Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est, j'ai encore une fois, dans le texte que j'ai distribué, l'expert est censé, bon, je cite le 3 des 10 règles qui étaient dictées dans un cas très célèbre il y a une quinzaine d'années. La preuve par expert doit être le produit indépendant de l'expert et non influencé quant à la forme ou au fond par la partie qui a désigné cet expert. Deuxième, l'expert doit fournir en toute indépendance son assistance au tribunal en donnant une opinion impartiale relative aux questions litigieuses relevant de son expertise. Et troisièmement, l'expert ne doit jamais remplir le rôle d'un avocat. Bon. Néanmoins, comme vous venez de dire, chaque expert est nommé par une partie au litige. Et il y a sûrement et souvent une tendance, quand il y a une gamme de, si on peut dire, les solutions sur tel ou tel sujet, comme il y a beaucoup dans n'importe quel domaine, mais surtout dans le domaine de la construction, vous allez sûrement voir que si cette solution-là est plus favorable au défendeur, l'expert pour le défendeur va prendre plutôt cette position-là, tandis que l'opposition va être prise par le demandeur, va être l'opposition qui peut être tout à fait valable, tout à fait soutenable sur le plan scientifique ou d'autres, mais c'est une opinion qui est écartée, plus ou moins, de l'opinion de son autre confrère, l'autre expert.
Oui, mais alors justement, enfin bon, on change un peu le cours des questions, mais on n'a plus beaucoup de temps, puisqu'on n'a que 45 minutes. On peut se demander comment le juge peut vraiment juger, parce que normalement, le juge français, bien entendu, il y a la procédure expertale à respecter. Si les règles ne sont pas respectées, comme on le sait, 80% au référé des expertises annulées, c'est parce que le contradictoire n'est pas respecté. Donc, bon, à supposer que la procédure soit respectée, le juge qui fait confiance, par exemple, à un éminent professeur de médecine comme notre présidente, comment voulez-vous qu'il aille dire le contraire de ce qu'elle dit si elle a donné un avis technique. Alors que là, vous, en Grande-Bretagne, vous avez deux éminents experts qui vont dire exactement le contraire. Comment est-ce qu'il va juger ?
Oui, c'est, mais à la base, au fond, ça vient de notre esprit de contre-interrogation que vous avez. C'est pas comme le procès pénal en France qui est interrogatoire, c'est adversaire. Vous avez deux adversaires et c'est à la suite de cette bataille d'idées, de cette contre-interrogation des deux experts par les avocats de chaque côté.
Je t'arrête. Il faut que tu expliques. Ici, tout le monde n'est pas habitué à faire des expertises en common law. Voilà. La direct examination et la cross-examination, il faut que tu expliques un peu plus si tu veux bien.
Voilà. Vous avez tous vu sûrement les films américains sur les procès pénals, non ? Vous avez jamais vu. Bon, faut que j'explique un petit peu plus. De toute façon, les experts sont les témoins. Ils sont traités comme les témoins. Donc ils ont fait le rapport, mais ils apparaissent devant le tribunal et ils sont D'abord, l'avocat qui est pour la partie qui a nommé cet expert pose certaines questions. À la suite de ça, l'autre avocat va poser beaucoup de questions, et il ne va pas être forcément très poli là-dessus. Hein. Il va essayer de montrer que l'expertise qui a été faite est mauvais, partiel, que l'expert, par exemple, a souvent fait ce type d'expertise qui n'a pas vraiment recherché à fond pour montrer au tribunal qu'il ne faut pas avoir confiance dans cet expert. Je suis sûr que vous avez vu 90%. Hein. Le fait de démolir l'expert, ça fait le parti central d'une procédure, surtout pénale, mais aussi civile, dans les pays de common law. Il faut savoir aussi qu'à la base de cette procédure, c'était pas pour convaincre le juge, c'était pour convaincre un jury. Parce que jusqu'à la fin du 19e siècle, même dans les procès civils, on avait un jury. Et jusqu'à présent, on a toujours un jury dans quelques procès civils. Par exemple, la diffamation. On est en train de le supprimer, mais ça existe toujours. Mais je crois que vous avez entendu quelques mots sur le procès aux États-Unis. Vous avez toujours un jury dans les procès civils. Qui est très important, parce que les jurys, dès qu'ils voient quelqu'un qui est blessé parce qu'il a pris un médicament d'une grosse société américaine, ils ont tendance à dire, bon, celui-là, il peut payer. Hein. Bon, je perds un petit peu, parce qu'avec mes explications sur le contre-interrogation, oui, mais encore une fois, c'est lire dans le texte et... Pour moi, le synthèse, si vous voulez, de cette expérience, quand vous avez les parties d'origine des pays civils, les parties d'origine de common law, c'est dans l'arbitrage international. Je viens de participer dans un arbitrage où on était trois arbitres, deux de parties des pays civils, une du common law. Et les deux parties étaient les parties des pays de civils. Je ne les nomme pas parce qu'il y a une certaine confidentialité dans l'arbitrage. Néanmoins,
il y a une pénalité pour ça. Hein. Oui.
pas
en France. Ah bon, pas en France.
Pénalisé pour les téléphones qui fonctionnent.
Néanmoins, le procédure qui était choisi par le président, c'était une procédure où les experts étaient dû subir une contre-interrogation et une espèce de réunion des experts. C'est-à-dire, le tribunal a posé les questions aux experts, comme vous faites en France. Bon, vous ne le faites pas en civil, parce que l'expert, il n'est pas là. Il donne son rapport, il est ailleurs. Mais dans d'autres pays du parti civil, ça se fait que le juge pose les questions à l'expert. Bon, on fait ça, mais en même temps, on laisse les avocats des deux parties poser les questions l'expert du parti adverse, contre-interrogation.
Alors, puisqu'on parle de ces fameux experts, qui sont-ils ? Nous, en France, on a mal de chiens à devenir expert judiciaire et surtout à le rester, puisqu'il faut qu'on fasse de la formation continue. Et c'est pas si simple que ça de devenir expert judiciaire. Mais parce qu'il y a des listes qui sont contrôlées par les magistrats. Et donc, quand on a affaire à une spécialité particulière, les magistrats peuvent choisir dans une liste. Tandis que vous, si j'ai bien compris, il n'y a pas de liste, ça veut dire que vous pouvez prendre votre boucher, votre charcutier pour une expertise de bâtiment. D'où viennent-ils, vos experts ?
Ouais. Bon, non, il n'y a pas de liste officielle. Je viens de dire qu'il y a des listes tenues par certaines compagnies. Et quand même, pour accéder à ce type de liste, il faut avoir une certaine connaissance parce que vous êtes jugé par vos pairs. Vous êtes jugé par les autres architectes, vous êtes jugé par les autres ingénieurs. Bon, alors, qui fait le choix des experts ? Pour la plupart du temps, c'est les avocats qui font le choix pour leurs clients. Et donc, c'est une lourde responsabilité. Ils vont choisir un expert qui a l'expertise. Vous n'allez pas en choisir un boucher pour donner un témoignage sur soit dans le bâtiment ou soit dans une question médicale, même s'il y a beaucoup de sang. Même s'il y a, un lien de sang entre les deux, peut-être. Chirurgien et boucher dans le passé. D'abord, bon, et c'est un petit peu le choix du marché. Quelle est la réputation de cet expert? Est-ce qu'il est qualifié? Est-ce qu'il est disponible? Bon, on peut dire aussi, quelques avocats, est-ce qu'il est partial? Est-ce qu'il est prêt d'être partial? Sous-entendu, est-ce qu'il va dire c'est ce que je veux qu'il dise? Néanmoins, quand vous nommez un expert, vous savez à la fin du procès qu'il serait devant le juge, être subi à une contre-interrogation assez acharnée. Et si il s'écroule, bon, c'est pas très bon pour votre client. Non.
Oui, c'est vrai que la cross-examination, c'est quelque chose de redoutable. Moi, je me souviens d'une cross-examination à Londres où l'expert, c'était pas Robert, mais ça aurait pu être lui, avait fouillé dans mon passé, avait dit, mais dites donc, vous avez quadruplé votre maths P parce que vous n'arriviez pas à être ingénieur. Puis comment voulez-vous maintenant qu'on vous croie comme bon ingénieur? Alors, ils vont chercher loin, hein, mais enfin, bon, quand on est rodé, après, ça va. Alors, là, maintenant, il y a quelque chose d'important, c'est que nous, les experts français, et même italiens et quelques autres, Espagne aussi, on travaille sur une mission. C'est-à-dire qu'on va pas chercher n'importe quelle interrogation sur n'importe quel sujet. Il y a une mission qui est définie par le tribunal. Soit elle est définie directement, soit elle est définie en symbiose avec l'expert. Lorsqu'on a des grosses expertises internationales, en général, le magistrat vient vous demander votre avis avec qui vous voulez travailler lorsqu'il faut avoir 7, 8, même j'ai vu 10 experts au Mont-Blanc, par exemple. Donc, il y a un coordonnateur. On appelle ça un président de collège, mais c'est un coordonnateur. Mais l'expert, il ne travaille que sur la mission que lui a donnée le magistrat. Vous, vos experts, qui sont des experts de chacune des parties, comment est-ce qu'ils travaillent séparément? Est-ce qu'ils ont la même mission? Qui l'a définie? Comment ça se passe chez toi?
Bon, je parle au premier temps de... Si vous avez, encore une fois, c'est le domaine que je connais le mieux, question d'une bâtiment défectueuse. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, vous allez nommer quelqu'un pour faire une recherche là-dessus, qui est responsable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en état ce bâtiment? Donc, l'expert en question va travailler assez longtemps sur ces sujets avant d'être vraiment un expert judiciaire. Il va être plutôt un consultant pour le client en question. Mais si le parti adverse n'accepte pas les conclusions de cet expert qu'il est responsable, vous devez passer à l'étape suivante d'une procédure dans laquelle il va être obligé de rédiger un rapport et d'agir en tant qu'un expert indépendant selon les règles que je viens de citer de la Cour suprême.
Alors oui, justement, le point suivant, mais que tu abordes déjà, qui est intéressant, c'est le rapport. Nous, on est tenus, nous, en France, de faire un rapport d'expert en répondant précisément aux questions du tribunal qui nous donne à l'avance. Mais vous, vous êtes obligé de faire un rapport écrit ou est-ce que le juge ne le demande pas?
Je ne connais pas de cas où il n'y en a pas un expert qui rédige un rapport. Toujours, un expert doit rédiger son rapport. Mais les questions de la mission est assez intéressant, assez important, parce que je reviens sur la mission qui est définie en premier temps par le tribunal. Mais comment peut le tribunal définir une mission sur laquelle ils n'ont pas les compétences à définir la mission?
C'est un problème qu'on a souvent, d'ailleurs, effectivement.
Et c'est aussi, dans notre système, aussi un problème que je viens de constater dans cet arbitrage. On avait deux experts sur les délais. Je ne connais pas le terme technique parce que quand j'ai posé les questions, ils ont dit que c'est le terme, c'est delay analysis, CPN. Les analyses de délai. Mais l'approche des deux experts doit être très très serrée. Par exemple, il doit prendre les mêmes logiciels. Il doit poser les mêmes logiques dans le logiciel, bien que une partie doit dire quelques faits, l'autre partie va dire d'autres faits. Malgré ça, on doit voir les mêmes...
Mais, par exemple, sur le logiciel dont tu parles, qui est-ce qui va définir le logiciel? Est-ce que les experts se mettent d'accord entre eux ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui donne une règle?
Non, normalement, il n'y a pas une troisième partie, par exemple le tribunal, mais j'estime que quelquefois, le tribunal, soit l'arbitrage, l'arbitre, soit le juge, doit intervenir en disant « Non, vous vous mettez d'accord sur tel ou tel système que vous allez suivre. Sinon, vous avez deux rapports d'experts qui sont comme une est comme le fromage et l'autre c'est du fruit. On ne peut pas faire une comparaison entre les deux.
Et supposons qu'ils ne se mettent pas d'accord, qu'ils disent moi je vais faire tel logiciel et l'autre. Est-ce que chez vous le juge intervient ou comment ça se passe là? Parce qu'il faut bien que quelqu'un choisisse.
Oui, non, mais justement ce type de question doit être résolu au sein de cette réunion des experts. Et assez souvent, le juge dit « Bon, vous allez vous réunir avant que vous rédigez vos rapports, que vous vous mettez d'accord sur le point de départ. »
Alors justement, sur ce sujet-là, il y a peut-être une méconnaissance d'un certain nombre d'entre nous, et moi en particulier. Il est vrai qu'au départ de l'expertise, lorsque les experts sont désignés par chacune des parties, est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils définissent toutes les pièces du dossier? Est-ce que toutes les pièces du dossier sont prévues à l'avance ou bien est-ce qu'au contraire, ça va au cours du temps faire évoluer au niveau des dossiers comme ça peut se passer chez nous en France?
Bon, encore une fois, deux systèmes différents. L'échange des pièces dans un procès de common law est beaucoup plus répandu que cet échange de pièces dans une procès civil en France. En France, vous êtes obligé de donner à la partie adverse les copies les documents sur lesquels vous basez votre argument. Tandis que, certes aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, vous êtes obligé de tout donner. Non seulement les documents qui soutiennent votre position, mais aussi les documents qui sont peut-être qui dit le converse.
Mais il n'y a pas la fishing procédure quand même en Angleterre.
Oui. Donc on peut passer l'après-midi là-dessus.
Non, on a plus de 5 minutes.
Tout ce que je voulais dire, c'est que dans le rapport, l'expert doit identifier tous les documents sur lesquels il a basé son rapport, toutes l'information qu'il a reçue de son client. Et évidemment, si au point de contre-interrogation, le parti adverse découvre qu'il soutient ses conclusions avec un document ou les informations qui ne sont pas mentionnées dans le rapport, voilà. Il risquerait au moins de ce parti de son rapport soit rejeté.
Alors, comme on arrive à la fin, on en pourrait parler l'après-midi, mais vous avez certainement bien d'autres choses à écouter. Je vais finir quand même par les sous, parce que ça nous sert quand même. Chez nous, les experts, on est payés très mal d'ailleurs, mais enfin, on est payés par décision du juge qui taxe nos rapports. Chez vous, qu'est-ce qui paye vos experts?
Bon, Si j'ai bien compris, c'est en France aussi, c'est les partis qui payent les experts.
Ah oui, mais c'est le juge qui décide, c'est pas tout à fait pareil, sinon on serait payé plus cher.
Oui, mais vos honoraires sont taxés. J'aime bien ce mot, j'aime bien ce mot parce qu'on l'emploie aussi en anglais. C'est un mot juridique très spécifique. Pour taxer, ça veut dire toujours réduire. Les experts en Grande-Bretagne, dans la plupart des pays de common law, mais surtout, je parle de la Grande-Bretagne, se mettent d'accord sur leurs honoraires avec leurs propres clients. Si le client gagne, alors le principe normal, c'est qu'il récupère non seulement ses frais d'avocat, ou 80% des frais des avocats, mais aussi ses frais d'expert. Alors, si dans une petite affaire d'une blessure pas très grave, il a nommé le professeur Peckles comme expert, qui coûte 800 euros à l'heure, le juge va dire, parce que ces frais peuvent être taxés, le client doit payer. Mais le parti adverse va dire, non, ça c'est un personnage trop, trop renommé pour une petite litige, je vais réduire ses honoraires de 800 euros par heure jusqu'à, je sais pas, 200 euros par heure. Tandis que le client va payer les 600 et le parti adverse qui a perdu va payer les 200.
Bien. Je crois qu'on pourrait parler encore beaucoup comme ça, mais on est presque arrivé au bout. Je voudrais quand même conclure en disant que finalement, pour ma part, que les experts en Angleterre, ils sont à la botte des avocats. C'est pas vrai ?
Ah oui, oui. Oui, vous avez des très bonnes relations avec les juges. Les experts en Grande-Bretagne cherchent d'avoir les bonnes relations avec les avocats et surtout les solliciteurs qui sont groupés dans les cabinets.
Mais je crois que, est-ce que tu peux dire un tout petit mot, parce qu'on va déborder notre temps, la différence entre les solliciteurs et les barristers, bon. Puisque tous les juges finalement en pays de common law viennent des avocats, alors que chez nous il y a différentes voies pour être magistrat.
Oui, les juges, je commence avec les juges. Les juges, on n'a pas de carrière pour devenir juge. Il faut passer un minimum de 10, plutôt plus souvent de 15 ans en exerçant en tant qu'avocat avant de devenir juge. Donc, on n'a pas de jeune juge. Il commence à peine à 40 ans. Bon, ça, c'est les juges. En plus, fréquemment, un juge entre dans son niveau, il reste à son niveau. C'est-à-dire, si c'est un juge, première instance, il reste plus souvent, pour le reste de sa carrière, un juge de première instance. Souvent, les juges sont nommés aux grandes instances et presque tout de suite après, ils sont envoyés dans la cour d'appel et ensuite, maintenant, à la cour suprême. On a un cas récent, très récent, d'un avocat très renommé qui est entré directement dans le Cour suprême. Et ça n'a pas plaisé beaucoup d'autres, les juges qui ont passé par les étapes. ça, c'est les juges. On a beaucoup moins de juges que vous, parce que la plupart du travail est fait par les avocats. C'est eux qui plaident, qui expliquent beaucoup. Dans le passé, le juge apparaît sur son siège. Il disait, madame, monsieur, je vous écoute. Il ne connaissait rien, presque rien sur le dossier. Il était dirigé vers les documents. Il écoutait les témoins. Et à partir de ça, il donnait ses conclusions. Maintenant, ça a changé. Il est obligé maintenant de lire les documents, de lire la plaidoirie avant. Mais encore une fois, c'était basé sur ce système où vous avez un jury. un jury pas censé de lire attentivement avant plusieurs centaines de pages de plaidoirie ou les documents. Non, ils sont là pour écouter. Bon, maintenant, je passe aux deux professions, la profession de barrister, qui sont à peu près 12 000 en Pays de Galles et en Angleterre, et à peu près 800-900 en Écosse, où ils sont appelés avocats, advocates. Eux, ils exercent surtout, ils exercent en tant qu'individuels. Ils n'exercent pas en tant qu'en cabinet. Donc, ils ont tous une responsabilité individuelle, même s'ils sont groupés dans les cabinets. Chacun est responsable pour lui-même et de payer payer une partie des frais de logement et les frais d'une secrétaire. Ça se fait que vous pouvez avoir dans le même procès deux barristers, une pour le défendeur et pour le demandeur. Et c'est acceptable.
Alors ce sont les gens qui plaident, c'est cela. Les barristers.
Ce sont les gens qui plaident et ils deviennent assez rapidement spécialisés dans tel ou tel domaine. Bon, néanmoins, les solliciteurs sont pour la plupart groupés dans les cabinets, donc ils ont les associés, ils partagent le bénéfice et les pertes. ils plaident aussi. Et de plus en plus, les solliciteurs peuvent plaider jusqu'à la Cour suprême. Jusqu'à il y a 15-20 ans, ils plaidaient uniquement devant le tribunal d'instance et la première étape dans les tribunaux pénals. Maintenant, ils peuvent plaider, s'ils ont passé certaines étapes, jusqu'à la Cour suprême. Mais les distinctions pour moi, c'est surtout dans la manière dans laquelle ils travaillent. Si vous voulez être individu, vous travaillez tout seul, malgré le fait que vous avez des confrères autour de vous, bon, vous devenez un barrister. Bon, c'est un petit peu plus précaire, parce que s'il n'y a rien qui entre, bon, vous n'êtes pas payé. Si vous êtes malade, bon, il n'y a personne qui vous paye. Hein. Tandis que si vous êtes groupé dans une cabinet avec d'autres associés... Bon.
Il faut qu'on quitte... Attends, je voulais quand même te poser une dernière question, malgré tout. Excusez-moi, Madame la Présidente. C'est qu'il y a un moment donné où on a dit que Lord Wolfe, tu as connu, que moi aussi j'ai eu le plaisir de connaître, avait décidé de réorganiser un petit peu le système anglo-saxon sur un système qui reviendrait un petit peu à se rapprocher un peu de notre système continental. Mais moi, je n'ai pas du tout l'impression qu'il y a eu ce rapprochement. Est-ce que je me trompe ou pas ?
Bon, non. Il a suggéré quelques éléments qu'on peut identifier du système français. Par exemple, il a dit, pourquoi pas, il y a un seul expert. Pourquoi deux ? Alors, j'ai expliqué dans le texte que j'ai distribué que dans certains cas, le tribunal peut exiger... Bon, messieurs, vous n'avez pas le droit de chacun nommer un expert. Vous allez choisir entre vous un seul expert. J'ai donné des raisons dans les cas où ça peut arriver. C'est mais ce n'est pas la règle. Et surtout, ce n'est pas la règle dans les procès assez lourds, assez importants. On garde toujours cette idée de chaque partie doit avoir la possibilité de nommer chacun leur expert.
Bien. Écoutez, on va s'arrêter là parce qu'on a déjà débordé notre temps de parole. Excusez-nous d'avoir été un peu long.